Chapitre 32. Tente d'Achille.
Je dois tuer Patrocle. Cette décision vient à moi comme un murmure dans la nuit, tandis que je repose au cœur du camp des Myrmidons, dans la tente d'Achille, enveloppée des vieilles chairs de phénix. Je dois tuer Patrocle. Je n'ai jamais tué personne. D'où Jésus, j'ai défilé contre la guerre du Vietnam quand j'étais étudiant. Je me suis révélé incapable d'endormir le chien de la famille. Ma femme a été obligée de l'emmener chez le vétérinaire. Et je me suis considéré comme un pacifiste durant la quasi-totalité de ma carrière universitaire. Je n'ai jamais frappé personne, nom de Dieu. Je dois tuer Patrocle. C'est la seule solution. Je pensais que la rhétorique, celle du vieux phénix révisée par mes soins, suffirait à convaincre Achille, le tueur d'hommes, de parlementer avec Hector, de mettre un terme au conflit, d'enterrer la hache de guerre. Tu parles ! Le choix d'Achille, mener une vie longue et prospère mais sans la moindre gloire, choque profondément le scoliaste, le spécialiste de l'Iliade que je suis. Mais elle n'en est pas moins sensée. À ses yeux, l'honneur demeure une chose plus importante que la vie, mais après avoir subi les insultes d'Agamemnon, il ne voit pas en quoi l'honneur exige de lui qu'il tue Hector pour périr peu de temps après. Odysseus, rhéteur habile entre tous, s'est montré fort éloquent pour lui évoquer la gloire qui lui serait acquise parmi les Achéens pour les générations à venir. Mais Achille ne se soucie pas de leur honneur. Il n'y a que son sens de l'honneur qui compte, et il ne le servira en rien s'il décide de tuer les ennemis d'Agamemnon, puis de mourir au nom de la cause d'Agamemnon et de Ménélas. Seul compte l'honneur d'Achille, et il préfère lever l'ancre et voguer vers son pays, où l'attend la vie du commun des mortels, renonçant à appartenir à cette petite bande de frères, plus de 20 siècles avant le prince Hal et la bataille d'Azincourt, plutôt que de compromettre un peu plus son honneur dans la sanglante plaine d'Ilium. Je le vois bien maintenant. Pourquoi ne l'ai-je pas vu plus tôt? Si Odysseus n'a pas pu convaincre Achille de reprendre les armes, Odysseus le rusé à la langue de miel, comment espérais-je y parvenir? J'ai été stupide. Un peu par la faute d'Homère, certes, mais stupide quand même. Je dois tuer Patrocle. Peu de temps après le départ d'Odysseus et d'Ajax le Grand, après qu'on a éteint torche et trépied dans la salle principale de la tente, j'ai entendu les esclaves qu'on faisait venir pour le bon plaisir d'Achille et de Patrocle. Je n'avais jamais vu ni l'une ni l'autre de ces captives, mais je connaissais leur nom. Homère ne nous laisse ignorer le nom de personne dans l'Iliade. La fille dévolue à Achille, jamais je n'aurais pu employer ce mot à l'université de l'Indiana, de peur que la police du politiquement correct n'exige ma démission, mais ici il me semble peu approprié de qualifier de femme ces gloussants objets sexuels, s'appelle Diomède, fille de Phorbas, et elle est originaire de Lesbos sans toutefois être lesbienne. Quant à la nana de Patrocle, elle s'appelle Iphis. J'ai failli éclater de rire quand je les ai entrevues derrière un pan de toile. Achille, cet athlète blond à la beauté sculpturale, a choisi une petite brune aux hanches larges et à la forte poitrine. Patrocle, un brun beaucoup plus petit que son ami, a opté pour une géante blonde aux seins minuscules. Pendant une bonne demi-heure, j'ai eu droit à une conversation de chambrée entrecoupée de rires féminins, puis à une cacophonie de gémissements de plaisir. De toute évidence, le héros et son pote ne dédaignaient pas prendre du bon temps ensemble, voire commenter leurs performances respectives, ce qui m'évoquait davantage les virées en ville d'un groupe d'agents immobiliers de l'Indiana que les hauts faits des nobles guerriers d'un âge héroïque. Barbare. Puis les filles ont pris congé, sans cesser de glousser, et le silence n'a plus été interrompu que par les murmures des sentinelles et les crépitements des feux de camp censés les réchauffer. Plus de monstrueux ronflements en provenance des appartements d'Achille. Comme je n'avais pas entendu Patrocle s'en aller, je pouvais supposer que c'était lui qui souffrait d'une déviation de la cloison nasale. Étendu dans l'obscurité, je passe mes options en revue. Non, je commence par me défaire de la forme du vieux phénix, au diable les conséquences, et c'est en tant que Thomas Oakenberry que je passe mes options en revue. Ma main est posée sur le médaillon TQ. Je peux regagner d'un saut les appartements d'Hélène. Je sais pertinemment que Paris se trouve avec Hector non loin de la tranchée, à des kilomètres de la ville, attendant le lever du jour pour massacrer les Grecs et incendier leur nef. Peut-être qu'Hélène serait ravie de me revoir. À moins que ce visiteur nocturne dénommé Hockenberry n'ait cessé de l'amuser et de lui être utile. Comme il est étrange de savoir que mon nom est connu ici par quelqu'un qui n'est pas un scoliaste.
Auquel cas, elle fera venir la garde.
Aucun problème. Je peux toujours me técu en un clin d'œil.
Pour aller où?
Je peux renoncer à changer le cours de l'Iliade. Renoncer à l'objectif que j'ai formulé lors de la première querelle opposant Achille à Agamemnon, à savoir défier les dieux immortels, et me técu à Olympos, adresser mes excuses à la muse et à Aphrodite lorsqu'elle émergera de sa cuve, puis solliciter une audience auprès de Zeus et implorer son pardon.
C'est cela, oui.
Quelles sont les chances pour qu'il passe l'éponge au Kenbosch? Tu as volé le casque d'Hadès, le médaillon técu, plus toute ta panoplie de scoliastes, en détournant l'usage à ton profit. Tu as fui le châtiment de la muse. Comble de l'audace, tu as détourné un char volant et tu as tenté de tuer Aphrodite dans sa cuve de soin. Mon seul espoir, une fois mes excuses faites, serait que Zeus, Aphrodite ou la muse me tue sur le champ plutôt que m'écorcher vif ou me jeter dans le puits sans fond du Tartare où je serais probablement dévoré vivant par Cronos et les autres titans bannis par Zeus. Non. Comme on tire le vin, on se couche, ou quelque chose comme ça. Qui veut la fin, veut les moyens. On n'a rien sans rien. Deux précautions valent mieux qu'une. Mais pendant que je m'efforce de trouver le cliché approprié, voire n'importe quel cliché, je reçois une révélation couchée en des termes peu professoraux, mais absolument convaincants. Si je n'ai pas une idée géniale dans les 5 minutes, je suis bel et bien foutu. Je peux tenter de raisonner Odysseus. Odysseus est un être sensé, un homme civilisé, un sage tacticien. C'est peut-être la réponse que je cherche. J'ai de bonnes chances de le convaincre qu'il est souhaitable de mettre fin à cette guerre contre les Troyens pour faire cause commune avec eux contre ces dieux trop humains. Pour être franc, en tant qu'enseignant, j'ai toujours préféré l'Odyssée à l'Iliade. Je suis plus sensible à l'humanité de Robert Fitzgerald, responsable de la version anglaise de l'Odyssée, qu'au style guerrier et rocailleux de ses confrères traducteurs de l'Iliade, Allen Mandelbaum, Richmond Latimore, Robert Fagles et même Alexander Pope. J'ai commis une erreur en pensant trouver le pivot des événements dans l'ambassade auprès d'Achille. Non, ce n'est pas Achille qu'il faut voir cette nuit, ou ce qu'il en reste, mais Odysseus, fils de Laërte, un homme susceptible d'écouter la supplique d'un lettré et de comprendre une logique de paix. Je vais jusqu'à me lever et toucher le médaillon técu, prêt à aller plaider ma cause devant Odysseus, sauf qu'un tout petit détail me retient. Si Homère a dit vrai, je sais ce qui s'est passé pendant que je gambergeais dans cette tente. Agamemnon et Ménélas, eux aussi, s'inquiètent de l'avenir, au point que cela les empêche de dormir. Et c'est à peu près à cette heure-ci que l'aîné des deux frères convoque Nestor et lui demande de trouver un moyen pour empêcher le massacre qui s'annonce comme imminent. Nestor lui recommande de réunir un conseil de guerre avec Diomède, Odysseus, Ajax le Petit et quelques autres. Une fois ces chefs rassemblés, Nestor propose que le plus audacieux d'entre eux s'infiltre derrière les lignes troyennes et s'informe des intentions d'Hector. Les Troyens et leurs alliés vont-ils vraiment incendier les nefs achéennes dans quelques heures? Ou bien Hector, rassasié de sang et de victoire pour le moment, va-t-il choisir de reconduire ses troupes dans la cité pour célébrer son triomphe avant de reprendre les hostilités? Diomède et Odysseus sont choisis pour cette mission, et comme tous deux sont venus de leurs tentes respectives sans se vêtir ni s'armer, ce sont les gardes qui les équipent, Diomède ayant droit à un casque en cuir de taureau et Odysseus à un célèbre couvre-chef clouté de défense de sanglier. Ce dernier, ajouté à la peau de lion que Diomède a passée sur ses épaules, donne aux deux guerriers une allure terrible. Dois-je me técu là-bas pour observer ce conseil de guerre? Je n'ai aucune raison de le faire. Diomède et Odysseus sont peut-être déjà partis pour leur raid. À moins qu'Homère ne se soit encore planté, comme pour le discours de Phénix. Et puis ça ne m'aidera pas à résoudre mon problème. J'ai cessé d'être un scoliaste. Je ne suis plus qu'un homme tentant de survivre et de mettre fin à cette guerre, ou à tout le moins d'en retourner le cours contre les dieux. Je repense alors à d'autres événements se déroulant cette nuit, et je sens mon sang se glacer dans mes veines. Lors de leur expédition, Diomède et Odysseus tombent sur Dolon, le lancier dont j'ai emprunté l'aspect il y a 2 jours pour suivre Hector chez Paris et Hélène. Dolon qu'Hector a envoyé espionner derrière les lignes achéennes. Il est armé d'un arc recourbé et coiffé d'un casque en peau de martre. et il s'avance à pas de loup parmi les cadavres, cherchant un moyen de déjouer la vigilance des sentinelles grecques, lorsque Odysseus le repère. Diomède et lui s'allongent alors parmi les morts, le surprennent et le désarment. Le Troyen implore leur pitié. « Ne laisse pas la mort obséder ton âme », lui déclare ou lui a déclaré Odysseus, qui entreprend alors de l'interroger sur le déploiement des Troyens et de leurs alliés. Dolon lui dit tout ce qu'il veut savoir. Il lui donne les positions précises des Cariens, des Péoniens, des Lélèges et des Cocones. Lui indique l'endroit où dorment les Pélasges divins, les fidèles Lyciens et les Mysiens altiers. Lui explique où reposent les Phrygiens dompteurs de cavale et les Méoniens aux beaux chars de combat. Il ne lui cache rien et le supplie de l'épargner. Il suggère même aux deux hommes de le ligoter et de le garder prisonnier jusqu'à ce qu'ils aient vérifié ses informations. Odysseus sourit au jeune homme, ou lui a peut-être déjà souri, et lui tape sur l'épaule pour le rassurer. « Je n'ai pas oublié la musculature de ce corps que j'ai occupé. » Puis, aidé de Diomède, il le débarrasse de son casque, de son arc et de sa peau de loup. « Ils ne font que le désarmer avant de l'emmener dans leur camp », murmure Odysseus. Et ensuite, Diomède le décapite d'un coup, d'un seul, de sa puissante épée. La tête de Dolon demande encore merci lorsqu'elle rebondit sur le sable. Et Odysseus brandit la javeline, l'arc, le casque en martre et la peau de loup du garçon, les offrant à Athénée en criant « Agrée cette offrande, déesse, tout ceci est à toi. Et maintenant, guide-nous vers le campement des Thraces, afin que nous tuions les hommes et volions leurs chevaux. Ce butin aussi t'appartiendra. » Des barbares. Je suis parmi les barbares. Même les dieux sont des barbares. Une chose est sûre, je n'irai pas parler à Odysseus cette nuit. Mais pourquoi Patrocle doit-il mourir? Parce que ma première idée était la bonne. Achille est la clé, le pivot qui va me permettre de faire basculer le destin des dieux comme celui des hommes. Je ne crois pas qu'Achille va appareiller dans quelques heures lorsque l'aurore agitera ses doigts de rose. Oh que non! Achille va rester pour observer la suite des événements comme il le fait dans le récit d'Homère, se réjouissant de l'infortune des Grecs. « Les Achéens vont venir me supplier à genoux », déclarera-t-il à l'issue d'une nouvelle déroute qui aura durement frappé tous les grands capitaines, Agamemnon, Ménélas, Diomède et Odysseus, alors qu'ils sont déjà venus cette nuit se jeter à ses pieds. Oui, Achille va se réjouir de la déconfiture de ses camarades argiens et achéens, et il faudra qu'Hector tue son ami Patrocle, qui ronfle en ce moment dans la pièce voisine, pour que le tueur d'hommes daigne regagner le champ de bataille. Donc, Patrocle doit mourir sans tarder pour détourner le cours des événements. Je me lève et fais l'inventaire de mes possessions. Je suis armé d'un glaive, cadeau de la muse, qui me sert avant tout à me faire passer pour un soldat. Je ne me suis jamais servi de cette épée et je ne sais même pas si elle a un fil. Pour me défendre durant mes 9 dernières années, j'ai avant tout compté sur mon impacto-armure, suffisamment puissante pour résister aux flèches, aux coups d'épée et aux javelines, nous a-t-on assuré, bien que je n'ai jamais eu l'occasion de le vérifier, et sur le taser dissimulé dans le bâton où se cache aussi mon micro-directionnel. Ces 50 000 volts permettent de neutraliser un éventuel agresseur le temps que le scoliaste gagne le portail Técu le plus proche. Quant au reste de ma panoplie, il comprend les lentilles qui renforcent mon acuité visuelle, les filtres qui améliorent mon ouïe, le casque d'Hadès présentement enroulé autour de mon cou, le médaillon Técu pendant à sa chaîne et le bracelet de morphing passé à mon poignet. Soudain, un plan, encore rudimentaire, commence à s'ébaucher dans mon esprit. Je passe à l'action tant que je m'en sens le courage. Coiffant le casque d'Hadès et disparaissant à la vue des mortels comme à celle des dieux, j'ai l'impression d'être Frodon ou Bilbon, voire Gollum, passant à son doigt l'anneau qui gouverne tous les autres. Je me dirige sur la pointe des pieds vers les appartements d'Achille. Achille et Patrocle dorment nus, allongés l'un contre l'autre, et Patrocle a passé un bras autour des épaules du tueur d'hommes. Cette vision me fiche sur place. Achille est gay. Ça veut dire que ce crétin de maître assistant féru d'études gays et lesbiennes avait raison, que ces articles délirants étaient dans le vrai, que tout ce baratin politiquement correct était vrai. Je me ressaisis. Ça ne veut rien dire excepté que 3000 ans me séparent de l'Indiana du 21e siècle et que je ne sais pas ce que je vois. Ces deux hommes viennent de passer 2 heures à forniquer avec des esclaves et ils se sont effondrés sur place, point final. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on en a à faire de la vie amoureuse d'Achille? J'active le bracelet et ouvre l'image que j'ai enregistrée il y a 2 jours dans le hall des dieux d'Olympos. Je ne sais pas si ça va marcher. Ce genre d'idée suscitait toujours l'hilarité des scoliastes. Les ondes de probabilité traversent des niveaux quantiques que je ne peux percevoir. L'air semble ondoyer, se figer, ondoyer à nouveau. Je me défais du casque d'Hadès et deviens visible. Visible sous la forme de Pallas Athénée, Tritogénie, troisième née des dieux, fille de Zeus et protectrice des Achéens. Je suis haute de 3 mètres et irradie ma propre aura divine comme je m'approche d'Achille et de Patrocle qui se sont tous deux réveillés en sursaut. Je perçois l'instabilité de chacun des atomes de ma forme. Le bracelet n'a pas été conçu pour nous faire endosser l'aspect d'un dieu, mais bien que mon corps vibre comme une harpe maniée par une brute, j'exploite au maximum le temps que dure cette substitution quantique. Je dois non seulement contrôler les sensations que me procurent mes seins et mon vagin, c'est la première fois que je prends la forme d'une femme, mais aussi celle qui découle de mon statut de déité. L'instabilité de ma forme est indéniable. Je sais au fond de moi que je n'ai pas assumé les pouvoirs d'Athénée, que je me suis contenté d'usurper quelques secondes son enveloppe quantique. Je m'empresse de prendre la parole, persuadé qu'entraînant, je risque de causer une réaction nucléaire, un cataclysme quantique.
Achille, réveille-toi! Debout!
Déesse! S'écrie le tueur d'hommes aux pieds rapides, quittant sa couche d'un vif mouvement.
Qu'est-ce qui t'amène ici en plein milieu de la nuit, ô fille de Zeus?
Patrocle se lève lui aussi en se frottant les yeux. Les deux hommes sont nus et leurs corps sont plus sculpturaux que n'importe quelle statue grecque. Leurs pénis non circoncis pendouillent le long de leurs cuisses bronzées.
« Silence !»
m'écriai-je. La voix d'Athénée est amplifiée au point d'en devenir surhumaine. Je sais que je réveille les autres occupants de la tente et que j'alerte les sentinelles. Je dispose de moins d'une minute. Comme pour souligner ce fait, voilà que le bras doré d'Athénée se brouille et devient l'espace d'un instant celui, pâle et velu, du professeur Thomas Hockenberry. Achille, qui garde les yeux baissés, n'a rien remarqué. Patrocle, lui, en reste tout ébahi.
Déesse, si je t'ai offensé...
commence Achille, levant les yeux mais gardant la tête basse.
Pas un mot !
Hurlai-je.
Une fourmi rampant dans la poussière peut-elle offenser un homme ? Le plus laid des poissons de la mer peut-il offenser le marin dont l'esprit est occupé ailleurs ?
Une fourmi ? Répète Achille, dont le beau visage sculptural exprime une incompréhension enfantine.
« Vous êtes plus petit que des fourmis aux yeux des dieux !»
Tout en rugissant de plus belle, je m'avance d'un pas, irradiant les deux héros des pulsations lumineuses d'Athénée.
« Vous nous amusez en périssant comme vous le faites, Achille, fils de Pélée et enfant débile de Tétis !»«
Enfant débile ?» répète Achille, le rouge aux joues.
« Déesse, en quelle façon t'ai-je... »« Silence, quoi ?»
La voix d'Athénée est tellement amplifiée qu'on doit entendre cette insulte jusque dans le camp d'Agamemnon, à 1500 mètres de là.
« Votre sort nous indiffère! Tout en vous nous indiffère! Vos morts nous amusent! Mais pas votre couardise, Achille aux pieds rapides !»
Dans ma bouche, l'épithète honorifique du poète résonne comme une insulte. Achille serre les poings et avance d'un demi-pas, comme pour affronter un ennemi redoutable.
Ô déesse, Pallas Athénée, protectrice des Athéens, je t'ai toujours réservé les plus belles offrandes. Les offrandes d'un couard n'ont aucune valeur sur Olympos.
Je sens que l'onde de probabilité connue sous le nom d'Athénée est proche de l'effondrement. Je n'ai plus que quelques secondes pour agir.
Désormais, nous choisirons nous-mêmes les offrandes qui nous sont faites.
Le bras d'Athénée se tend vers Patrocle, dissimulant le bâton que je tiens. Prêt à presser le bouton d'activation.
Si tu veux retrouver le cadavre de ton ami, il te faudra prendre d'assaut la forteresse d'Olympos, Achille le couard!
Le taser frappe Patrocle au centre de son torse glabre et bronzé, et les électrodes quasi invisibles lui envoient 50 000 volts dans l'organisme. Portant une main à son cœur comme s'il venait d'être foudroyé, il pousse un cri, tressaille, entre en convulsion comme un épileptique, se pisse dessus et s'effondre. Avant qu'Achille ait le temps de réagir, Le guerrier aux pieds agiles reste figé sur place, les poings serrés et les yeux exorbités, trop choqué pour bouger. Athénée avance de deux pas, agrippe par les cheveux un Patrocle apparemment défunt et le traîne sans ménagement sur le sol. Achille s'ébroue, gronde et saisit son épée posée sur un tabouret. Sans lâcher la forme inanimée de Patrocle, et tandis que celle d'Athénée, de plus en plus instable, se met à grésiller comme un écran de télévision mal réglé, j'active le médaillon TQ pendant à mon cou et file loin, très loin, de la tente d'Achille.